Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de ce numéro de Vivante Église, le dernier de la semaine. Vous savez sans doute que les quatre évangiles intégrés au Nouveau Testament, celles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, ont été reconnus comme canoniques par les églises chrétiennes, alors que d'autres, non reconnus, sont appelés apocryphes. Pourquoi les premiers ont été retenus, pourquoi les seconds ont été rejetés, c'est ce que nous allons essayer de vous expliquer au cours de cette émission. Pour répondre à cette question, je reçois aujourd'hui le père Renaud Silly, dominicain, docteur en théologie et spécialiste d'exégèse biblique. Bonjour mon père et grand merci d'avoir répondu à mon invitation pour nous apporter vos lumières sur ce vaste sujet.
Bonjour.
Je précise pour nos auditeurs que vous avez également dirigé le dictionnaire Jésus, une somme colossale de 1300 pages parue en 2021 dans la collection Bouquins. Et puis tout récemment vient de paraître le livre d'Anthony Giambrone, La quête du Christ historique, paru aux belles lettres, dont vous avez dirigé cette fois-ci la traduction. Évangile canonique, évangile apocryphe. Donc avant qu'on explique pourquoi les premiers sont canoniques et les autres apocryphes, je voudrais qu'on s'attarde un peu sur le terme évangile, qui vient du latin evangelium, lui-même issu du grec ancien et qu'on peut traduire par bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut dire aussi que les évangiles se rapprochent d'une certaine manière de ce qui relève aujourd'hui du genre biographie et qu'elles sont, entre autres, des biographies de Jésus?
Alors, si on prend évangile avec un petit e, eh bien, ça désigne un genre littéraire qui a été créé par Saint Marc, d'ailleurs, principalement, et qui relève de la biographie. C'est-à-dire que ça a été noté ça, dans des études il y a une trentaine d'années qui ont alimenté un grand débat, puisqu'on trouve, comme dans la biographie, un certain équilibre entre les parties narratives et les discours. On trouvait aussi des récits qui vont depuis l'origine d'un personnage, sa naissance, jusqu'à sa mort. Également la taille d'ensemble de l'évangile de Marc correspond à une biographie comme on se trouve celle de César chez Plutarque, par exemple. Donc un certain nombre de critères formels, en quelque sorte. La matière qui distribue aussi les faits remarquables, les opinions sur le personnage, la trace qu'il a pu laisser. Et puis, bien entendu, une focalisation sur un héros qui fait l'objet principal du livre. Tout ça, c'est les critères qui identifient une biographie telle que les anciens la pratiquaient et qu'on retrouve dans nos évangiles canoniques. Un autre élément intéressant, c'est que les biographies anciennes cherchent à mettre en valeur des faits et des paroles. Et ce ne sont pas des biographies psychologiques comme les biographies modernes, qui, elles, cherchent à entrer dans les profondeurs de l'âme du personnage qu'elles identifient, mais le personnage se révèle, se manifeste à travers ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et on trouve par exemple le Christ aux pèlerins d'Emmaüs. C'est les pèlerins d'Emmaüs qui disent à ce mystérieux individu qui vient les aborder: Jésus s'est montré un prophète puissant en parole et en acte. Or, justement, nos évangiles contiennent les paroles et les actes de Jésus. Donc, ils relèvent, avec évidemment des particularités, du genre biographique.
Ce qui veut dire qu'à ce titre, les évangiles nous parlent bien du Jésus historique, le Jésus des évangiles et bien le Jésus de l'histoire. Pour vous, il n'y a pas de discussion là-dessus.
Disons que nos évangiles canoniques sont les seules sources dont nous disposons pratiquement pour parler du Jésus de l'histoire, c'est-à-dire du Jésus, ce personnage sur lequel l'histoire peut se prononcer avec ses critères propres. Il y a quelques informations sur lui chez un certain nombre d'auteurs non chrétiens, qu'ils soient juifs ou latins, qui ne sont pas inintéressantes d'ailleurs, mais c'est quand même maigre par rapport aux évangiles canoniques. Essentiellement, c'est à partir d'eux que l'on doit faire la biographie de Jésus. Et ça, le père Lagrange, d'ailleurs, l'affirmait déjà il y a plus d'un siècle. On ne peut pas écrire de vie de Jésus crédible autrement qu'en suivant les évangiles.
Les évangiles canoniques sont donc les quatre que l'on trouve dans le Nouveau Testament, évangiles selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Canonique renvoie à la notion de canon. Là aussi, il faut qu'on définisse ce mot. Qu'est-ce que ça signifie précisément?
Alors, le canon, ça désigne en fait un certain nombre de livres qui sont reconnus comme constituant une collection revêtue d'une certaine autorité. Le mot canon, ça vient d'un mot hébreu, d'ailleurs kana, qui donne canne en français, parce que à cette époque, les livres ne se présentaient pas comme pour nous sous la forme de feuillets assemblés, mais sous la forme de rouleaux qui étaient dans des boîtes. Et en fait, le canon, c'était la longueur de ces boîtes dans lesquelles se trouvaient ces rouleaux qui avaient à peu près tous la même taille. Donc c'est comme ça que s'est défini d'abord le canon de la Bible juive, c'est-à-dire avec un certain nombre de livres, il y en a 22 exactement, qui donc répondent à une mesure presque métrique. C'est ça l'origine du terme. Alors il faut comprendre que les notions de catalogue que nous avons aujourd'hui sur Internet ou dans des grandes bibliothèques n'étaient pas forcément très diffusées chez les anciens. Et donc comment savoir qu'un livre faisait partie d'une collection revêtue d'une certaine autorité? Eh bien, chacune de ces autorités qui légitimaient des livres avait sa propre liste d'ouvrages, étant eux-mêmes revêtus d'une certaine crédibilité. Et donc, le canon, en fait, c'est la liste officielle. Alors, elle n'était pas forcément très, très, très diffusée, ça dépend. Mais en tout cas, c'est sûr que l'autorité qui accréditait ces choses-là avait intérêt à définir un canon de façon assez précise. Et évidemment, pour les Juifs, c'était le Temple de Jérusalem, bien sûr, qui a élaboré un canon juif, au fond, assez tôt.
On en vient à la question principale. À quel moment les quatre évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean ont été définis comme canoniques et pour quelles raisons?
En fait, je crois que la question, c'est délicat de la poser comme ça. Parce que ça donne l'impression que l'Église aurait eu en face d'elle un certain nombre d'ouvrages appelés à tort ou à raison évangiles et qu'elle aurait retenu les uns et exclu les autres. Or, ça ne s'est jamais produit ainsi. Ça ne correspond pas à la réalité. C'est tout simplement que l'Église n'a pas le pouvoir de produire des évangiles canoniques, ni de décider ce qui est canonique. Elle reçoit les évangiles qui sont inspirés. Et ce n'est pas la même chose. De la même manière que l'Église ne définit pas ce qui est péché ou ce qui n'est pas péché, l'Église, elle discerne ce qu'il est et elle dispose du pouvoir de le pardonner. De la même manière, l'Église reçoit des ouvrages inspirés. Et le discernement de l'Église s'est exercé sur ces ouvrages dès le IIe siècle, où on voit avec saint Irénée, par exemple, qui parle de l'évangile tétramorphe, c'est-à-dire à quatre formes, qu'il met en rapport avec les quatre vivants qui entourent le trône de Dieu dans la vision d'Ézéchiel ou dans l'Apocalypse. Mais ça, c'est évidemment une sorte de convenance. Ce n'est pas Ézéchiel ou l'Apocalypse qui ont déterminé le nombre de quatre. Saint Irénée est vraiment un témoin très précieux pour nous dire que le dépôt qui fait autorité dans l'Église catholique, ce sont ces quatre évangiles-là, donc c'est à la fin du IIe siècle. Et évidemment, ce n'est pas Irénée qui crée cette norme, il la reçoit de la tradition. Ça, c'est absolument décisif. On en a un autre bon exemple, par exemple, à peu près à la même époque que saint Irénée, un érudit syrien qui s'appelait Tatien a composé une harmonie évangélique qu'on appelle le Diatessaron, c'est-à-dire une vie de Jésus en puisant dans les quatre les détails qui peut-être ne sont que chez les uns et pas chez les autres, de façon à faire une espèce de vie d'ensemble. Et Tatien n'a emprunté sa matière qu'aux quatre évangiles canoniques. Et lui-même, évidemment, ne prétendait pas remplacer les évangiles en question. Il voulait juste faire une œuvre littéraire, peut-être catéchétique, de la même manière que Mauriac a fait une vie de Jésus. Vous voyez, ça relève cet ordre-là. Eh bien, Tatien, lui, n'a pris que les quatre. Il n'a pas puisé sa matière ailleurs. Donc, ça montre même qu'à cette époque, à l'époque de Tatien, donc vers 170 après Jésus-Christ, s'il y avait des évangiles apocryphes, quelqu'un comme Tatien était très très conscient, enfin savait que leur origine à ce moment-là était très très proche, que donc il ne faisait pas partie du dépôt, et que lui-même par contre pouvait assigner aux quatre évangiles canoniques une origine beaucoup plus ancienne, et qui lui a permis de composer son œuvre qu'à partir d'eux. Ça donc c'est un cas tout à fait intéressant, qui montre que pour des auteurs dès du IIe siècle, ces quatre-là jouissent d'un statut particulier.
Alors ce qu'on peut dire aussi, c'est que si j'ai bien compris, dès les premiers siècles, 1er, 2e siècle, beaucoup d'évangiles en fait ont circulé, mais les quatre en question ont très rapidement fait autorité.
Mais justement, pas tant que ça en fait. C'est-à-dire que les quatre premiers, les quatre évangiles canoniques, c'est eux qui ont créé le genre. Et ensuite, au 2e siècle, c'est quand même des dizaines d'années après, il y a eu composition de nouveaux évangiles, mais qui du coup n'ont pas du tout les mêmes sources que les premiers. Et ce n'est pas contemporain, si vous voulez. C'est pas en même temps que Matthieu, Marc, Luc et Jean, il y avait d'autres évangiles qui apparaissaient à profusion. Absolument pas. Les autres évangiles, comme l'évangile de Marie, l'évangile de Philippe, l'évangile de Pierre, sont des œuvres apocryphes, parce que justement, leurs auteurs nommés ne sont pas leurs auteurs réels, qui apparaissent bien longtemps après la composition des quatre premiers. Donc ils n'ont pas du tout la même forme de composition.
Et pas la même époque non plus.
Et pas la même époque non plus, oui.
Alors, on en vient donc à ces quatre évangiles canoniques. Les trois évangiles de Marc, Matthieu et Luc sont également appelés les évangiles synoptique. Voilà, encore un mot qu'il va falloir que nous définissions. Qu'est-ce qu'on entend par synoptique? Il y a quelque chose, en fait, qui les relie et qui les différencie de celui de Jean.
Alors, si vous voulez, ce qu'on appelle le fait synoptique a été remarqué déjà il y a très 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 longtemps, il y a des milliers d'années déjà, à savoir qu'on peut mettre en colonne Matthieu, Marc et Luc, et en les lisant à la suite, puisqu'en fait, l'enchaînement des épisodes est à peu près le même chez les uns et chez les autres, et même l'emplacement des discours, des paroles, est à peu près le même chez les uns et chez les autres. D'ailleurs, quand on regarde dans nos Bibles, hein, vous avez parfois, dans la marge, où vous avez qu'à côté de Marc, on vous renvoie à Matthieu et à Luc, parce que c'est un épisode qui se trouve présent chez les deux autres, et généralement à peu près à la même place dans la trame du récit. Donc c'est pour ça qu'on peut parler de synoptique. L'évangile de Jean ne rentre pas dans cette trame-là. Et ça, c'est un point extrêmement intéressant à remarquer d'ailleurs, parce que d'un côté, saint Jean fait référence aux épisodes synoptiques, d'ailleurs il en partage un certain nombre, mais en revanche, il a conscience d'apporter quelque chose de plus. Voyez. De la même manière qu'il nous dit lui-même que le matin de Pâques, l'autre disciple fut plus rapide que Pierre et arriva le premier au tombeau. Ou alors, il y a un autre épisode tout à fait intéressant, c'est que ce qui définit la trame des synoptiques, c'est un critère canonique, là pour le coup vraiment au sens juridique du terme, qui est que Pierre est le premier et le dernier apôtre nommé. C'est très important parce que simplement, ça prouve que le critère de catholicité initial, c'était de se fondre dans la prédication de l'apôtre Pierre. En quelque sorte, c'est Pierre qui, le premier, a donné une forme aux épisodes, enfin, à la succession des épisodes de la vie du Christ. Et ensuite, les gens qui se sont maintenus dans cette fidélité à ce mouvement fondé par Jésus, pour montrer qu'ils entendaient rester dans la règle, ont repris cette trame qui venait de Saint-Pierre. Et c'est pour ça que Saint-Pierre est le premier et le dernier apôtre nommé. Or, chez Saint-Jean, ça apparaît aussi, sauf que Saint-Jean nous dit que, avant que Pierre soit appelé, il y a eu André et un autre disciple qui ont amené Pierre à Jésus. Et puis, à la fin, tout à fait à la fin, Pierre demande à Jésus, et celui-ci, que va-t-il devenir de lui? Il parlait du disciple que Jésus aimait, et Jésus lui répond, celui-ci, si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je revienne, qu'est-ce que cela peut te faire? C'est un détail tout à fait intéressant chez saint Jean, qui montre qu'il a parfaitement compris que l'ensemble du témoignage évangélique doit être enclos dans la prédication de Pierre, mais lui, il est un petit peu avant et un petit peu après. Donc, comme s'il rajoutait quelque chose, voilà, que Pierre n'a pas transmis pour X raisons, voilà. Donc, il y a une sorte de rivalité fraternelle, ici, qui est tout à fait intéressante, et qui correspond exactement à la course de ces deux au matin de Pâques.
Si on prend les quatre évangiles un par un, quelles sont les particularités, les spécificités de chacun d'entre eux? Qu'est-ce qu'ils apportent précisément par rapport aux autres? Ou sur quoi insistent-ils plus?
Alors, saint Marc, lui, ce qu'il manifeste, d'abord, c'est la biographie réelle de Jésus, c'est-à-dire ses faits et ses paroles. Saint Matthieu insiste davantage, on pourrait dire, sur un critère ecclésial, c'est-à-dire le fait que Jésus fonde une communauté qui est le dépositaire authentique de sa mémoire. Saint Luc insiste davantage sur certains aspects moraux de l'évangile, c'est-à-dire de le choix de la pauvreté,
la miséricorde,
ascétisme,
aussi,
la miséricorde, voilà. Quant à saint Jean, il insiste davantage sur le caractère symbolique, enfin le symbolisme inhérent aux actes de Jésus en tant qu'ils sont fondateurs d'une tradition liturgique et dogmatique. Voilà, ça c'est vraiment tracé à grands traits, les particularités de chacun, mais il y en a encore beaucoup d'autres.
Oui, alors le plus ancien, c'est celui de Marc, hein, a priori,
oui.
Quelques années, voilà. 70 à peu près, je crois.
Avant même. Il est probablement 64, même, est antérieur à la destruction du Temple, vers 60, 62 peut-être, oui. Il y a des mots latins dedans qui signalent une origine romaine, probablement.
Et, de Marc.
De Marc, oui. Donc ce qui va bien avec le fait qu'il a été composé au moment où Pierre est arrivé à Rome, et a transmis donc à ce disciple Marc son évangile, ce qui fait que Marc est par excellence le témoignage de Pierre. Et Matthieu et Luc possèdent aussi ce témoignage de Pierre, peut-être pas sous la forme de Marc, mais sous une forme différente, mais rajoutent un certain nombre d'éléments qu'ils possédaient par ailleurs, peut-être d'autres apôtres.
Luc se présenterait un peu, lui, peut-être comme celui qui a le plus le côté historien des quatre.
Ça dépend, c'est-à-dire que chez saint Luc, on trouve en effet un vocabulaire historiographique, très affirmée, par exemple avec la notion de témoignage oculaire hein, qu'il emploie directement. Il y a la notion de fiabilité du récit, aussi la notion de récit continu, vous voyez, c'est-à-dire de parties qui s'enchaînent. Il emploie un vocabulaire technique qui est tout à fait caractéristique, mais en fait, Saint Jean, par exemple, a aussi une prétention historienne très nette, au sens où chez lui, le vocabulaire du témoignage oculaire est peut-être moins directement employé, mais en revanche, la réalité elle-même y est. C'est-à-dire qu'il insiste beaucoup sur le fait qu'il a vu et qu'il rend témoignage. Donc, en fait, ils sont tous historiens à leur manière. Marc, plutôt comme biographe, Matthieu, plutôt comme témoin vraiment de la constitution de la communauté, et Luc, en tant qu'il emploie les termes dont il sait qu'ils sont attendus par les lecteurs cultivés d'origine païenne.
Est-ce qu'on peut faire une synthèse des quatre évangiles canoniques? Qu'est-ce qu'on peut en retenir globalement sur le Jésus historique, justement? Et sur le message, bien sûr, qu'ils transmettent pour les chrétiens.
Oui, le point important, c'est qu'ils sont bien tous des évangiles. Et ça, pour le coup, c'est un type d'œuvre qui a été créé et qui leur est commun aux quatre, et qu'en fait, on ne retrouve pas vraiment ailleurs. Les évangiles apocryphes n'ont ce nom que par extension, puisque généralement, ils ne suivent pas les critères qui font un évangile. Or, évangile avec un grand E, c'est un mot extrêmement important, puisque en fait, il a un double sens, juif et grec. Le sens grec, il est synthétisé dans une inscription qu'on appelle l'inscription de Priène, en Asie mineure, qui raconte l'avènement d'Auguste, l'empereur, et qui va jusqu'à dire, avec l'avènement donc d'Octave Auguste, c'est le commencement des évangiles, vient le temps où on pourra enfin ne plus regretter d'être né. Ben alors, forcément, c'est dithyrambique, mais en fait, évangile, ça désigne l'avènement d'un nouveau règne qui inaugure une ère nouvelle, dont on espère que, sous l'égide de ce roi protecteur, ce règne qu'il établit sera un temps de paix et de justice. Ça, c'est vraiment le sens grec du mot évangile. Et en fait, ce mot a été retenu dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, hein, écrit en hébreu. C'est là où on le trouve aussi, pour, d'une certaine manière, un peu conforme avec ce sens grec. C'est que pour les Juifs, le mot évangile, ça désigne la proclamation du règne de Dieu qui va s'établir au retour de l'exil. Principalement, c'est ça. C'est un prophète qu'on appelle le Deutéro-Isaïe, qui est écrit à partir du chapitre 40 du livre d'Isaïe, et qui annonce en effet l'avènement du règne, puisque la monarchie traditionnelle n'existe plus. Donc dorénavant, c'est Dieu lui-même, le souverain de son peuple, et qui vient rétablir la justice de l'Alliance. Et ça, c'est ce que dit le mot évangile. Donc, s'il y a vraiment quelque chose de commun à nos quatre évangiles canoniques, c'est bien ça, c'est que Jésus est venu inaugurer en sa propre personne et par son action, et par ses discours, et par l'enseignement qu'il transmet, et par l'Église qu'il fonde, eh bien, le royaume de Dieu.
Voilà ce qu'on peut dire des évangiles canoniques, sachant évidemment que nous sommes loin d'avoir tout dit. Nous allons faire une pause musicale avant de nous intéresser aux évangiles dits apocryphes, un peu plus dans le détail, parce que vous en avez déjà parlé, et qui mieux que Jean-Sébastien Bach a illustré en musique la passion du Christ rapportée dans les évangiles. Voici le célèbre Erbarmdich, extrait de sa monumentale et magnifique Passion selon saint Matthieu. Thank you.
Vivante Église, Éric Dupri.
Nous sommes de retour pour cette seconde partie de Vivante Église avec mon invité, le père Renaud Silly, dominicain, docteur en théologie, qui a dirigé le dictionnaire Jésus, paru en 2021 dans la collection Bouquins. Nous avons traité la question des évangiles canoniques en première partie d'émission et les raisons pour lesquelles ils ont été retenus, intégrés plutôt dans le Nouveau Testament. On en arrive donc maintenant aux évangiles dits apocryphes. Voilà encore un mot qu'il va falloir définir avant d'aller plus loin. Est apocryphe une parole, un écrit, un fait dont l'authenticité est douteuse ou peut-être remise en cause? Est-ce que cette définition convient aux évangiles dits apocryphes? Parce qu'on parle aussi d'évangiles cachés.
Oui, apocryphe, de toute façon en grec, ça veut dire caché. Donc on peut très bien traduire si on veut. On les appelle apocryphes parce que l'auteur mentionné dans leur titre ne correspond pas en fait à celui qui les a effectivement composés ou... En tout cas, ce n'est pas l'autorité sous laquelle cette œuvre a été publiée. Parce que les évangiles canoniques se placent sous l'autorité de quelqu'un qui, même s'il n'a pas forcément tout écrit, est quand même le garant du contenu. Quand on dit Matthieu, Marc, Luc et Jean, on se réfère d'abord à ça. Même si Luc est plus un auteur, sans doute au sens moderne du terme, Matthieu ou Jean, par exemple, ont surtout garanti le contenu de l'œuvre qui est publiée sous leur nom. C'est comme ça qu'on pourrait dire. Or, ce n'est pas le cas des évangiles apocryphes. Marie-Madeleine n'a rien à voir avec l'évangile qu'on lui attribue, Philippe l'apôtre non plus, et Pierre encore moins. Pourtant, il y a des évangiles de Pierre, des évangiles de Philippe et des évangiles de Marie-Madeleine. C'est aussi un terme abusif quant à l'usage du nom évangile lui-même, puisque les évangiles sont des biographies, comme nous l'avions dit en première partie de l'émission, donc qui commence normalement par les origines d'un personnage et qui se termine par sa mort, avec un équilibre entre les paroles et les actes, avec une insistance sur les traits de caractère qui manifestent la personnalité de l'individu dont on dresse la biographie. Or, ces soucis-là sont absents des évangiles apocryphes qui se concentrent sur tel ou tel épisode de la vie de Jésus, n'ont pas une vision d'ensemble de son personnage. Et puis l'ensemble, les évangiles en question, n'annoncent pas l'avènement du royaume de Dieu en la personne de Jésus et dans les institutions qu'il fonde. Donc de ce point de vue-là, appeler tout ça évangile, c'est très abusif.
Alors, apocryphe, aujourd'hui, combien y en a-t-il qui sont retenus sous cette appellation et à qui sont-ils attribués?
Alors, c'est très fragmentaire tout ça, je ne peux pas vous dire le nombre. Je vous ai cité trois qui sont les plus connus. Il y a l'évangile de Thomas également, qui est certainement un des plus importants, qui est une collection de 115 paroles de Jésus qui sont toutes introduites par Jésus dit. Ensuite, il y a des apocryphes qui concernent par exemple les apôtres, les actes de Pierre, les actes de Paul, les actes de Jean, qui racontent sous le mode d'un récit de voyage les débuts de la prédication des évangiles. Bref, c'est une constellation extrêmement vaste. Un autre célèbre, c'est le protoévangile de Jacques, qui lui est connu depuis l'Antiquité, qui a été transmis aussi dans l'Église, dans la Grande Église, pas uniquement par des sectes hérétiques, et qui a beaucoup inspiré l'iconographie. Il y a par exemple des épisodes qui ont marqué, par exemple, la présentation de la Vierge au Temple, ça vient du protoévangile de Jacques. Aussi, par exemple, Joseph qui se lamente parce qu'il pense que son épouse lui a été infidèle, ça vient du protoévangile de Jacques. En fait, c'est une littérature fictionnelle, parfois d'édification, qui rappelle un peu les contes de Narnia, vous voyez, ou Tolkien, enfin des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est une composition littéraire à partir d'eux, donc des récits sur la vie de Jésus, et on brode, on insiste sur certains aspects, enfin, on fait tourner l'imagination. Ça, c'est des apocryphes au sens faible du terme. Après, vous avez un certain nombre d'écrits qu'on appelle les gnostiques, c'est-à-dire d'un mouvement intellectuel qui s'est, au cours du 2e, 3e siècle, s'est emparé du christianisme qui était en pleine ascension, et l'a compris, non pas du tout selon les formes institué par Jésus, mais selon des représentations mentales qui étaient celles du paganisme hellénistique, avec voilà, un certain nombre de dualités esprit, corps. Ça, pour le coup, c'est une littérature extrêmement foisonnante. Le dernier apocryphe, si on voulait vraiment aller jusqu'au bout, c'est l'évangile de Barnabé. Voilà, qui est un écrit d'un apostat chrétien passé à l'islam au XVe siècle, et là qui nous donne une version d'un Jésus musulman, en quelque sorte, un Jésus conforme à l'orthodoxie islamique. Et ben, en fait, si vous voulez, tous ces apocryphes ont en commun de comprendre Jésus, la portée de son personnage, non pas selon ce que Jésus en a transmis, mais selon ce qu'on est capable d'en comprendre.
Alors vous parlez de constellations, ça veut dire qu'il y en a des dizaines comme ça qui ont circulé et qui circulent toujours d'ailleurs.
Oui, ben on retrouve parfois aussi des fragments. Il y a eu un évangile de Judas qui a été publié en 2006, qui avait fait grand bruit parce que c'est un ouvrage très intéressant et assez fascinant par certains côtés. On peut encore en retrouver d'autres, c'est pas impossible.
Qui avait été retrouvé où d'ailleurs, l'évangile
de
Égypte, Judas?
En Égypte, d'ailleurs. Tous ces apocryphes viennent d'Égypte, pour deux raisons, parce que l'Égypte, d'une part, dans la mesure où c'est un climat très sec, a permis de conserver
des écrits très anciens
qui partout ailleurs se seraient corrompus physiquement, et aussi parce que dans les origines chrétiennes, l'Égypte a été certainement une des régions les plus profondément évangélisées. Enfin, voilà. Et donc il y a eu toutes sortes de mouvements aussi hétérodoxes qui se sont développés autour de la Grande Église.
Alors ces évangiles apocryphes, est-ce que parmi eux, il y en a quand même certains qui ont un intérêt, ne serait-ce qu'historique, et qui font encore l'objet d'études aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui, les apocryphes sont assez à la mode parce que c'est vrai que c'est une matière neuve. Autant les évangiles canoniques sont labourés en profondeur depuis 2000 ans, autant les apocryphes, certains, vous voyez, on parle
c'est
d'un...
C'est une terre quasi vierge.
Exactement, il y en a un qui a été découvert il y a 18 ans, vous voyez, l'évangile de Judas. Donc forcément, pour des savants qui sont à la recherche quand même de renouveler leur matière, c'est très séduisant parce qu'au moins, ça nous apporte quelque chose sur lequel exercer son art et sans aller sur les sentiers battus. Donc d'un point de vue scientifique, il y a quand même quelque chose d'exaltant dans les apocryphes puisque ça nous parle bien d'époque très reculée, d'un christianisme qui n'est pas le nôtre, et du coup qui permettent quand même de mettre en perspective des choses que l'on croit trop facilement acquises. Ce qu'a montré les apocryphes, qui est un point important, c'est qu'au IIIe siècle, à l'époque où en fait Saint-Irénée vraiment mène sa lutte contre la gnose, il est fort probable que le christianisme orthodoxe était pratiquement minoritaire. C'est-à-dire que dans la prédication de la foi chrétienne, donc qui s'est faite par les apôtres et leurs successeurs, il y a des gens épuisés, enfin pour lesquels les ressorts religieux du paganisme s'étaient épuisés, et qui se sont tournés vers cette doctrine nouvelle, magnifique, séduisante. Il y a presque un phénomène de mode qui s'est déroulé à cette époque autour de la foi chrétienne, et donc avec plein de gens qui se sont emparés de ça en disant, dis donc, essayons de comprendre, de diffuser, voilà. Et qui l'ont fait indépendamment de la tradition authentique. Et l'archéologie romaine, par exemple, de la ville de Rome, montre bien ce pullulement au IIIe siècle de chapelles gnostiques où on voit Jésus, mais qui n'est pas Jésus de la foi chrétienne. Hein, c'est une sorte de Jésus New Age, un petit peu, si vous voulez, voilà. Comme quoi, les phénomènes sont très anciens.
Oui.
Alors c'est vrai que forcément, dans la mesure où tous ces mouvements ont disparu par la suite, l'Église a considéré que tout ça avait été latéral. D'un point de vue doctrinal, oui. Mais en revanche, du point de vue sociologique, certainement qu'il y a eu une époque où ce christianisme latéral était en fait pratiquement majoritaire. Et ça, c'est ce que l'étude des apocryphes nous dévoile, la conformité de l'enseignement que Jésus avait transmis. Et ça apporte deux choses, l'étude des apocryphes. D'une part, le constat que l'établissement de l'orthodoxie a été très très difficile, mais qu'en revanche, la conscience de l'orthodoxie est très précoce aussi.
Alors, vous disiez que les apocryphes étaient à la mode. Ce qui est à la mode aussi, c'est le complotisme. On dit parfois que les apocryphes auraient été écartés parce que certains d'entre eux révéleraient des faits dérangeants sur Jésus, sur sa vie, sur sa famille. Qu'est-ce qu'il en est exactement?
Vous parlez peut-être de l'évangile de Marie-Madeleine, justement, Marie-Madeleine est présentée comme le disciple par excellence de Jésus, qui aurait même reçu une espèce de mission doctrinale. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très à la mode, d'ériger comme ça Marie-Madeleine en sorte de parangon d'une contre-église qui aurait été plus tolérante, plus inclusive, plus libérale, face à une église patriarcale qui se serait constituée autour du principe d'autorité des apôtres. Ça, c'est une construction qui est très arbitraire. Et en réalité, le plus beau témoignage que nous ayons sur Marie-Madeleine, c'est dans les évangiles canoniques eux-mêmes. Si on regarde de près ce qu'ils nous en disent, là, en effet, on se rend compte que Marie-Madeleine est un personnage absolument extraordinaire et bien mieux encore que ce que dit l'évangile de Marie-Madeleine. Simplement, c'est pas la concurrente d'une église hiérarchique. C'est en effet une femme qui incarne une sorte de christianisme prophétique, il faudrait dire. C'est-à-dire un christianisme dans lequel elle est, tout le mystère de la foi lui est transparent, est vécu de façon profonde et intérieure. Et elle a une sorte de fait, dans les évangiles, une sorte de longueur d'avance par rapport aux apôtres dans la compréhension du mystère lui-même. Mais ça, c'est ce que nous affirme déjà l'évangile canonique. C'est pas concurrent par rapport à la tradition de l'Église. Voilà. Donc, est-ce que les évangiles apocryphes contiennent des éléments qui viendraient compléter les évangiles canoniques? Ben non, parce que les évangiles apocryphes n'ont pas d'accès direct aux sources de la tradition chrétienne. Tout ce qu'ils savent sur Jésus vient des évangiles canoniques. Voilà, ça c'est un point très important. Aucun auteur d'évangile apocryphe n'a pu bénéficier d'une tradition qui aurait été oubliée ou passée sous silence par les auteurs des évangiles canoniques. Tout ce qu'ils savent de Jésus, ça vient des quatre. Et puis après, ils brodent des choses en fonction de leur fiction d'édification. Donc, ça veut dire que les évangiles apocryphes ne nous apprennent rien sur Jésus. En revanche, ils nous apprennent des choses sur l'évolution du christianisme dans les siècles qui ont suivi sa naissance.
Donc, est-ce que, pour les gens qui nous écoutent, qui se posent des questions, est-ce que ça a un intérêt de lire les apocryphes ou certains d'entre eux, autres que celui que vous venez de définir, de détailler, c'est-à-dire un intérêt historique sur l'histoire du christianisme? Est-ce qu'il y a un intérêt tout de même pour apprendre des choses sur Jésus lui-même? Apparemment, non.
Moi, j'aurais tendance à dire que non, parce que, en effet, c'est une littérature qui est délectable pour les savants, qui cherchent un petit peu à mieux connaître les origines chrétiennes, ça c'est sûr. En revanche, quelqu'un qui cherche à approfondir sa foi, les évangiles apocryphes n'apportent rien.
Et bien voilà, une réponse très claire, et on va terminer là-dessus. Tout ça est passionnant, bien sûr. Il faut quand même conclure cette émission. On aura sans doute l'occasion de revenir plus en détail sur les évangiles et les aspects historiques de la vie de Jésus, notamment après la parution de ce livre que j'ai indiqué en début d'émission, dans ce livre d'un auteur américain, je crois, Anthony Giambrone, La quête du Christ historique, paru aux belles lettres. Et c'est vous qui en avez dirigé la traduction, Renaud Silly. Je rappelle aussi le Dictionnaire Jésus paru dans la collection Bouquins que vous avez dirigé également. Et ça, c'est une belle idée de cadeau pour la prochaine fête des Pères. Cette émission était animée par Éric Dupri. À la technique, Christophe Aubry. Excellente journée à tous. À la semaine prochaine.